Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Andrée a 67 ans, elle a été gardienne d'immeuble et a fait quelques ménages pour compléter. Elle habite en banlieue parisienne, elle vit avec son fils Jean-Michel qui est en mauvaise santé. Elle-même est diabétique et asthmatique, enfin pas la joie. Quand elle part à la retraite, les 500 euros mensuels qu'elle touche ne lui suffisent pas pour s'en sortir. Elle décide alors de prendre exemple sur son autre fils, Jean-François, qui vend du cannabis. Elle commence doucement à alimenter son quartier en résine. Puis, lorsque Jean-François part vivre ailleurs avec sa copine, André reprend sa succession, son point de vente. Entre 2004 et 2006, elle achète dans l'Essonne pas moins de 40 kilos de cannabis qu'elle revend à Brie-Comte-Robert. Le commerce prend de l'ampleur et c'est le monde à l'envers puisque c'est son fils qui finit par la mettre en garde. Elle doit être prudente, elle prend trop de risques. Pendant 2 ans, André réussit à gagner entre 30 et 40 000 euros, largement de quoi répondre à ses besoins. Mais un jour de mauvaise chance, elle tombe en panne sur la route qui l'amène à Comble-la-Ville, son nouveau lieu d'approvisionnement. Des policiers passent par là, s'arrêtent, lui demandent ce qu'elle fait, où elle va et André craque. Elle avoue aller chercher 3 kilos de stupéfiants dans la commune voisine. Les agents n'en reviennent pas. La retraitée dealeuse passera 4 mois en détention provisoire à Fleury-Mérogis avant d'être condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, par le tribunal correctionnel de Melun. Lors de son procès, elle plaide coupable, révèle les quantités achetées ainsi que le nom de son fournisseur qui est également condamné et aussi ses 2 fils. Elle dit avoir agi pour se sortir de la misère, éviter le déclassement, trouver une solution à une retraite bien trop maigre. Tout de suite dans les pieds sur terre, 3 autres histoires pas aussi piquantes mais où il est question également de déclassement social, de chute de la dure vie des retraités par Alice Babin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Monsieur El Atalati Ahmed. Je vais sur les 67 ans. Je suis né en 51. Je suis en France depuis le 1970. J'avais une formation d'hôtel et restauration dans la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. 1 an et demi d'école, 3 ans d'apprentissage, j'ai commencé par la boucherie. Et mon patron, il se trouvait qu'il avait un hôtel-restaurant. Donc en fait, de là, il m'a sélectionné en disant, bon, je vois que tu parles bien français, que tu as une culture française, ça t'irait bien de venir nous aider dans l'hôtel-restaurant. Okay. Et c'est lui qui m'a donné l'adresse pour venir faire un stage à l'école hôtelière, côté de Montparnasse. Et j'ai une bonne formation, j'ai dû faire 12 ans de formation d'hôtellerie avant de commencer à gagner ma vie. Une fois donc... Dans ma carrière d'hôtel et restauration, des fois je faisais quelques saisons, des fois je faisais du travail intérim, des fois je faisais des remplacements. Comme nous, les immigrés, on n'est pas préférés dans l'hôtel et restauration parce qu'on nous prenait pour les moins qualifiés. Que, par définition, en France, un immigré arrivé ne peut pas maîtriser la restauration française. Un immigré qui travaille dans l'hôtel et restauration, ça ne peut même pas s'imaginer. Parce qu'un immigré qui connaît la cuisine française, ça n'existe pas et presque ça ne doit pas exister. Et même quand je postulais en poste, je me présentais, on me dit quoi, votre cuisine, vous faites, monsieur, c'est une cuisine marocaine, c'est une cuisine tunisienne. Moi, j'ai un CAP de l'école hôtelière. C'est la cuisine française. On me dit, oh là là, monsieur, est-ce que vous rendez compte? Le gars de la carte qu'on a, est-ce que vous connaissez tout ça? Il y a déjà une appréhension, déjà, avant de vous accorder une chance d'une journée, hein, parce que c'est pour un remplacement. Et pour une journée ou une semaine à la rigueur, vous arrivez le matin, ils vous regardent, mais merde, c'est un arabe. Moi, j'ai des clients là, qui viennent des assurances, des trucs, qu'est-ce qu'ils vont me saboter tout? C'est pas possible. Je vois les gens, ils commencent à faire. Mais comme ils n'ont pas le choix, il est presque l'heure du travail. Ils disent, bon, on va finir aujourd'hui, vaille que vaille, après, si ça ne va pas, bon, c'est pas grave. Vous voyez ? Alors, on a moins d'opportunités, donc j'étais obligé de faire des boulots un peu plus loin, des saisons, des intérims, tous les précaires, tous les boulots précaires. Ce qui a fait que j'ai beaucoup d'employeurs. Donc, j'ai beaucoup d'employeurs avec des durées réduites, en fait. 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, des fois, je suis arrivé à 3 ans, mais pas plus. Je peux dire que c'est pas un travail de carrière. Pas à faire carrière. Donc, ce qui m'a mené à avoir plusieurs employeurs, et ça a fait que des trous. Donc, mais avant que vous y arriviez à la consécration de prendre une place, c'est très difficile. Ça n'a pas été facile. Donc, j'étais mené à faire des travaux difficiles. Travailler la nuit. On ne trouve pas les gens qui travaillent la nuit. Travailler le samedi et dimanche dans les hôpitaux. J'ai fait les hôpitaux. Donc, tu n'es jamais là le week-end, ni les jours fériés, ni le jour du réveillon, parce que moi, le jour du réveillon, c'est là où on a une opportunité de gagner un peu plus d'argent. Donc, on travaillait toute une nuit, et 500, 600 francs le repas de la nuit, ou même des fois 1000 francs par personne. Donc, le patron, il vous paye bien. Si vous en sortez, il vous paye bien. Donc, ce qui fait qu'en plus du week-end et du jour férié, même le jour de l'an qu'on doit passer à la maison en famille, je le passe dans le travail. Vous savez, à la restauration, quand on arrive à 50 ans, on ne veut plus vous garder, vous n'êtes plus rentable, vous êtes trop vieux. À moins d'avoir votre café ou votre restaurant pour vous, si vous voulez salarier, vous n'avez aucune chance. Parce qu'il y a les jeunes qui arrivent avec un salaire moindre. Et on vous dit, vous, avec votre salaire, on peut employer 2 personnes ou 3 personnes même des fois. Parce que les jeunes, ils débutent avec le SMIC. Ou forcément, à 50 ans, vous n'avez pas le SMIC, puisque le SMIC, vous l'avez eu quand le SMIC était à 800 francs. Donc, vous n'êtes plus intéressant pour l'entreprise. Donc, on essaye de vous donner soit un petit boulot avec des horaires réduits ou un truc quand c'est possible. Et ben, sinon, on essaye de vous licencier tout simplement. Donc, j'ai été licencié par mon employeur vers les années 2000. Donc, pour prétendre à une nouvelle carrière ou à un autre salaire, étant donné que j'étais âgé à l'époque, donc une cinquantaine d'années, j'avais pensé, oui, que je pourrais faire un crédit pour acheter un restaurant et refaire un avenir dans la restauration. Mais vous ne pouvez pas prétendre d'acheter une affaire si vous n'avez pas accès au crédit. Donc ça, c'est pas possible. Donc quand vous n'êtes pas très posé financièrement, les banques ne vous font pas beaucoup confiance. Voilà, donc à 50 ans... J'avais aucune issue, donc j'ai acheté un vieux camion. Je faisais le marché 3 jours par semaine, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, je suis à la retraite. Mais je touche la retraite complémentaire. Une moyenne de 250 euros par mois. J'ai que ça avec le salaire de mon épouse. Dépendre de son épouse, déjà, ça fait une gêne, en fait. Ne pas avoir du tout de ressources, c'est pas bien non plus. C'est pour ça que je me suis mis à faire un peu de marché pour essayer de rentabiliser un peu ma vie, quoi. Sur le marché aux puces de Montreuil. Voilà. Pour que je ne sois pas totalement inutile. Donc la semaine, je cherche des objets. Et samedi et dimanche, je l'expose au marché. Je vends des gadgets, quoi. Des gadgets à droite et à gauche, quoi. Un peu de bazar, un peu de gadgets. Ça va jusqu'à 50 euros. Dans la journée, des fois 30 euros, des fois on ne travaille pas du tout, ça dépend. On travaille samedi et dimanche pour essayer de voir manger dans la semaine d'après, la semaine qui vient après. On se lève à 5 heures du matin. On arrive le matin, des fois, ils disent, bon, il n'y a pas de place, on revient à la maison. On rentre à la maison. C'est pas souvent qu'on a une place, parce que nous, on travaille sur une place que la personne titulaire sur cette place-là, il a manqué, il n'est pas venu, s'est absenté. Bah, des fois, on travaille, vous avez une place un samedi après-midi, des fois un samedi le matin, des fois dimanche après-midi, des fois dimanche le matin. Et quand c'est vide le mois d'août, on a la chance de travailler samedi et dimanche, 2 jours complets, parce que les gens partent en vacances. Donc, même si on ne travaille pas, on se lève à 5h du matin. Ça fait 3 jours de 5h, 6h jusqu'à 9h le soir. Vous vous rendez compte combien ça fait d'heures? Ça fait beaucoup d'heures. Puis vous êtes debout toute la journée, hein. Alors, forcément, on est fatigué. Heureusement, pour compléter, donc, je fais samedi et dimanche pour essayer de compléter un peu le salaire et payer le loyer, parce que le loyer, ils sont chers à Paris. Et avec une retraite comme ça, qui n'arrive pas d'ailleurs, je ne sais même pas de combien elle va être, parce que ils m'ont proposé une retraite de 500 euros, je pense, parce que j'ai une estimation. Ils n'ont pas tenu compte de toutes les fiches de paie qui n'ont pas été enregistrées. Donc, parce que comme les employeurs, ils étaient différents et précaires, il y a ceux qui ne déclarent pas, ceux qui vont donner une fausse fiche de paie, mais en réalité, ils ne cotisent pas. Et d'autres qui ne sont pas dans la comptabilité de la retraite. Il y a beaucoup de lacunes dans leur calcul à eux. Et il manque beaucoup de patrons. Donc j'ai déposé mon dossier en 2017. Comme je suis affilié à RIC, l'RIC a envoyé mon dossier à Clermont-Ferrand. Donc je leur ai envoyé les fiches de paie des originaux pour se baser sur les fiches de paie. Une fois qu'ils ont fini de traiter, ils doivent me les renvoyer. Ils m'ont averti qu'ils les ont renvoyés à Aubervilliers. Mais de la maison de retraite d'Aubervilliers, il n'y a pas moyen. J'arrive pas à les récupérer. J'arrive pas à trouver le monsieur qui s'occupe du monde ici. J'arrive pas à avoir le contact avec lui. La plateforme qu'ils ont, il est occupé tout le temps. Et quand il n'est pas occupé, on vous dit, on va vous rappeler dans 7 jours. Et puis depuis 7 jours, combien de 7 jours ils se sont passés? Vous rappelez 7 jours, ils ne rappellent pas. Vous rappelez 7 jours, ils ne rappellent pas. J'ai écrit, pas de réponse. J'ai écrit un recommandé, pas de réponse. Donc, et voilà où j'en suis. Donc, en fait, on est coincé, quoi. On est coincé. Je suis en attente depuis 2017. Il n'y a aucune nouvelle. Donc, j'attends toujours la retraite. Donc, tant que ma retraite n'est pas régularisée, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller au plus. Ça ne tourne pas toujours comme on veut. J'ai pas le choix.
France Culture, les pieds sur terre.
Eliane, j'ai 71 ans. J'ai toujours travaillé et actuellement je suis retraitée et j'ai fait des études jusqu'à l'âge de 18 ans au niveau bac. Et puis j'ai travaillé tout de suite, bon, j'ai eu plusieurs activités, j'ai travaillé dans l'immobilier. Après j'ai fait une formation pour être psychothérapeute, ce que j'ai fait pendant quelques années. Et puis j'ai aussi créé de toutes pièces un restaurant, disons salon de thé plutôt. Donc mon mari a eu des très bonnes situations. Il a travaillé dans des très gros cabinets de consulting, etc. Donc, on vivait en plein centre de Paris, dans des très beaux quartiers. Notre fils est allé dans les écoles privées. On faisait beaucoup de voyages. Voilà, c'était ça un peu notre train de vie. Et puis, on n'avait pas cette idée que peut-être tout ça allait s'arrêter. À un moment donné, il n'a plus fait partie de ces entreprises cotées en bourse. Voilà. Et petit à petit, tout ça a un peu diminué, quoi. Et quand on a eu vraiment le problème d'un revenu moindre, qui était le revenu de mon mari, on n'a pas pu faire face. Et c'était de la folie de garder un appartement à Paris qui nous coûtait extrêmement cher. 1800 euros par mois, juste l'appartement. Donc c'est là où on a déménagé. On a baissé tous nos frais qui n'étaient pas indispensables. Et donc, à ce moment-là, mon revenu devenait essentiel. Et puis, à l'âge de 67 ans, j'ai appris que je pouvais cumuler ma retraite. Moi, j'étais tout à fait d'accord pour continuer à travailler. J'étais en forme. Donc, pour demander sa retraite, il faut clôturer toute son activité, c'est-à-dire donner sa démission, quitte à reprendre dès le lendemain, un autre contrat avec les mêmes clients ou avec d'autres entreprises. Ce que j'ai fait avec l'accord de donc, tous mes employeurs. Ils m'ont dit « Ok, pas de problème ». Et puis, l'activité principale que j'avais, ils ont changé d'avis. Et c'était un peu trop tard parce que j'avais déjà demandé ma retraite. Ils ont changé de directeur. Le directeur n'était pas d'accord parce qu'il voulait changer de système. Et il m'a dit, non, finalement, on va faire autrement. Donc, non, on vous prend plus. Donc là, j'étais un petit peu coincée parce que c'était quand même la moitié de mon revenu de salarié. D'abord, ça m'a fait un choc parce que j'ai beaucoup travaillé pour cette entreprise. Je me suis beaucoup investie. C'était dur physiquement parce que c'est un métier aussi physique. J'ai le sentiment que j'en ai fait un peu trop, quoi. Et puis, 3 mois plus tard, ils m'ont dit, mais non, finalement, ça ne va pas être possible. Alors, donc, ma retraite, elle est de 1200 euros. Et donc, forcément, c'était un complément intéressant. Ça aurait augmenté mon revenu d'environ 1000 euros. J'ai gardé quand même un client qui m'a donné du travail supplémentaire, extrêmement mal payé, pour peu d'horaires. Et c'est ça qui nous a permis effectivement de nous en sortir. Actuellement, je travaille donc pour une marque alimentaire dans un grand magasin de Paris et je m'occupe du rayon de cette marque-là. Donc l'approvisionnement, les commandes, la mise en rayon, je gère le stock. Voilà, c'est à peu près tout. Donc tout ça se présente dans des cartons qui sont assez lourds. Donc ça me demande 12 heures par semaine, pas plus. Et ils m'ont donné des magasins supplémentaires en grande banlieue que je fais aussi 2 fois par mois. C'est fatigant. C'est un travail dur physiquement et maintenant j'ai des douleurs qui augmentent. J'ai mal au dos 24 heures sur 24. J'ai de l'arthrose dans les mains. C'est difficile maintenant, physiquement. À tel point que je me demande si je vais pouvoir continuer. Pour le moment, je continue. Parce qu'il le faut. Quelque part, je préfère travailler, même si ça devient dur physiquement, que de se retrouver à se serrer la ceinture au point où on puisse plus sortir. Alors bien sûr, on peut toujours se promener, etc. Mais on a besoin un peu de nourriture extérieure. En fait, je continue à travailler pour acheter des livres. On peut aller au cinéma et on fait attention pour le théâtre, une expo de temps en temps. Partir en vacances un petit peu. Vivre dignement sa vie, quoi. Je pense beaucoup à mon mari, parce que je trouve que pour lui, c'est important. Mon mari, lui, vient d'un milieu beaucoup plus aisé. C'est sûr, avec son père qui était dans des grandes entreprises, qui était président de certaines sociétés, qui avait des gros magasins, genre Galerie Lafayette, etc. Bon, et donc, la réussite était très importante pour son père. Et mon mari, forcément... Et donc, c'est important que, effectivement, je continue pour le moment. Même si c'est difficile physiquement maintenant, j'avoue.
Je m'appelle Amara Mebtoul, je suis née le 22 2 1953 en Algérie. Et je vis ici en France depuis 40 ans. J'ai 65 ans. J'ai travaillé pendant plus de 50 ans. Je gardais des enfants et des ménages à domicile. J'ai fait même du ménage dans les restaurants partout. Là. C'était dans le 16e, le 8e, le 15e, le 12e aussi, beaucoup. Le ménage, la cuisine et les enfants. Je commence de 7h30 du matin jusqu'à 8h30 le soir. Le ménage et les gardes d'enfants en même temps. Et la plupart, je faisais des gardes partagées, même de 4 enfants à la fois. À l'époque, c'était presque 3 euros à l'heure. J'étais jeune, j'étais en bonne santé. Je faisais plusieurs travaux sans déclarer dans la journée. quelques heures là, et c'était rien déclaré. Les patrons qui nous embauchaient, ils n'avaient pas des aides ni rien, alors ils nous forçaient à ne pas être déclarés. Pendant 15 ans, je n'étais pas déclarée. C'est à partir de 2004 que j'ai commencé à être déclarée. Ouais. Voilà. Et maintenant, j'ai une retraite de 820 euros. Et un loyer de 560 euros. Je ne sais pas comment vivre. Maintenant, j'ai arrêté, depuis 2010, j'ai arrêté de travailler. J'avais 56 ans parce que j'étais fatiguée. Malheureusement, j'ai la carte d'handicap, je ne peux pas me mettre trop debout. Et j'ai des tendinites partout parce que je levais beaucoup les bras, je faisais beaucoup de vitres. Et des carreaux qui faisaient 2 mètres de longueur. Et le ménage et la cuisine à fond. Je prenais les poussettes, je les descendais des escaliers, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc je ne peux plus travailler beaucoup. Ouais. Je suis à la retraite, mais malheureusement, rien n'est fait. La femme vient d'appeler à la retraite, ils me disent il est bloqué mon dossier, il a été interrompu. Pourquoi, je ne sais pas, ils l'ont oublié. Mais depuis une année, ils ne nous ont pas ni envoyé ni le courrier, ni rien du tout. Elle m'a dit, s'il ne sera pas appelé d'ici une semaine, elle me passera au défenseur de droit. Voilà. Et maintenant, ils m'ont retiré le fin de droit de chômage. Maintenant, je vis avec 800 euros. Voilà. On a du mal à remplir le frigidaire pour le mois. Bon, ma fille, de temps en temps, elle m'aide un petit peu. J'ai pas de mari, je vis seule, je suis divorcée pendant... Ça fait 20 ans. Ouais. Et j'ai jamais voulu aller à l'assistante dire que j'ai pas ou quelque chose. Non, j'ai jamais. J'ai pas osé. Je cherche du travail. Si je trouve, je prendrai un petit peu de travail pour m'aider pour la fin du mois, quoi. Parce que je crois qu'on a le droit, quand on a une petite retraite, de travailler, déclarer un petit peu. Au moins, ils me déclarent au moins 2 heures, 3 heures, c'est bien. Malgré toutes mes douleurs que j'ai, si je trouve les gardes d'enfants la nuit ou bien une personne âgée qui est à la maison, je peux lui donner des médicaments, rester avec elle à la maison, discuter, l'accompagner, quoi. Jusqu'à présent, j'aime bien les enfants et tout, mais je ne peux plus faire les sorties comme avant ou sortir avec eux dans les jardins. Par contre, dans la maison, je peux les garder et leur donner la nourriture et tout. Et après, j'attends les parents qui viennent et je repars. Mais pour faire les va-et-vient ou rester beaucoup debout, je ne peux plus. J'ai du mal. Je pensais être à la retraite, je serais très bien et on aura un petit peu de côté. Et on se repose, mais c'est le contraire. Même si on a la retraite, on cherche maintenant encore du travail pour gagner la vie, quoi. Je me reposerai pour ma retraite si j'aurai les moyens. Je travaillerai plus pour me promener, pour faire des petits voyages si c'est pas cher. Un petit peu des voyages organisés en Turquie, au Maroc. Ici en France aussi, j'aimerais bien voir. Je connais pas les endroits. Mais... Dommage.
We
C'était le déclassement social, un reportage d'Alice Babin réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Ahmed, à Eliane, à Amara et à l'UNRPA, c'est-à-dire l'Union nationale des retraités et des personnes âgées, pour leur confiance et leur accueil. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.